Bienvenue sur Radio Créaume. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4-5-6 décembre 2009.
Je veux maintenant passer la parole à Dominique Payette. Donc, Dominique Payette, qui est aussi dans le comité organisateur du colloque. Elle est professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. Elle a aussi enseigné à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Elle a été journaliste à Radio-Canada et à Télé-Québec. Elle travaille sur l'Afrique, dont sur le Rwanda, et elle a réalisé « À toi l'Afrique » avec des jeunes francophones, et elle est l'auteur du livre « Le journalisme radiophonique » aux Presses universitaires de Montréal. Son intervention s'intitule « Analyse de l'impact d'un acte terroriste contre les femmes ».
Merci beaucoup, Francis. Je vais probablement repartir un peu d'où où Judy s'est arrêtée, parce que avant de mesurer l'impact d'un acte terroriste, j'avais envie de nous équiper probablement un peu mieux pour comprendre ce que c'est qu'un acte terroriste. Et pour y arriver, j'ai revisité le travail de deux chercheurs qui s'appellent Schmidt et De Graaf, et qui travaille au Centre pour l'étude des conflits sociaux à l'Université de Leiden, c'est aux Pays-Bas. Et c'est un ouvrage qui a été écrit dans les années 1980. Mais l'idée m'est venue parce qu'il y a quelques mois, vous vous en rappelez sans doute, en Afghanistan, un attentat a été commis par des talibans contre un groupe de jeunes filles, de jeunes femmes qui voulaient se rendre à l'école. Et là encore, Francine y a fait un peu allusion hier. Donc, ces jeunes femmes ont été brûlées. Dans le cas de l'une d'elles, elle a été aveuglée par ce vitriol. Et en fait, je me suis passé la réflexion toute simple qu'elles ont fait exactement la même chose que Marc Lépine. Je vais y venir aussi comment ça se fait que c'est si simple pour les médias ici de voir et de comprendre ce que ça voulait dire là-bas et pourquoi c'est si compliqué pour les médias d'ici de comprendre que ça s'est passé ici. Évidemment, les médias, c'est ma cour d'école, c'est à peu près ça. Alors, je vais juste poursuivre un petit peu le parallèle et je pense que ça peut nous aider aussi à comprendre en quoi c'est un acte terroriste et en quoi il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce mot d'attentat terroriste. Alors, les agresseurs et les agressés ne se connaissent pas. C'est une des caractéristiques importantes. Mais les agressés agissent d'une manière qui déplaît aux agresseurs. Elles se rendaient à l'école, donc c'est une chose qui leur était interdite lorsque les talibans gouvernaient l'Afghanistan. Et les agresseurs ont attaqué ces jeunes femmes, c'était les premières cibles, mais à travers elles, bien sûr, c'est toutes les jeunes femmes qui rêvent d'aller à l'école, qui sentent sur elles peser cette menace. Donc, ce sont les cibles numéro 2, ce que mes deux auteurs, Schmidt et De Graaf, appellent les cibles ultimes. Donc, c'est elles que ces terroristes veulent terroriser par cet attentat. Et ultimement, en fait, il leur suffisait de faire suffisamment peur pour qu'elles renoncent à l'école, qu'elles renoncent à l'instruction et, au fond, qu'elles renoncent en Afghanistan à diriger leur propre vie. Mais, fascinant, les médias d'ici ont très bien rendu compte de cet événement, vous vous en rappellerez. Marc Lépine ne connaissait pas ses victimes. Elle ne le connaissait pas non plus. Mais il trouvait, ainsi qu'il l'a écrit, qu'elle n'était pas à leur place à l'école polytechnique, que ce devait être la sienne à lui et non pas leur place à elle. Donc, Marc Lépine a attaqué les 14 jeunes femmes, les premières cibles, bien sûr, puisque ce sont elles qui ont perdu la vie, mais à travers elles, ce sont sur toutes les femmes qui rêvaient d'accéder à un monde assez fermé jusque-là, et qui l'est encore aujourd'hui, que la menace a pesé. Donc, Marc Lépine n'a pas tué des jeunes femmes dans une école de sciences infirmières, comme le soulignait hier Francine Pelletier, ni aux sciences de l'éducation. Pourquoi ? Il aurait pu, s'il avait strictement détesté les femmes, en tuer beaucoup plus facilement s'il était allé dans une, ou même dans une école de journalisme ou de com, comme c'est le cas actuellement, il aurait trouvé beaucoup plus de femmes. Mais il a tué des étudiantes en génie. Il a étudié donc des femmes qui... un genre particulier de femmes, il y a 20 ans, mais encore aujourd'hui, donc des femmes qui veulent exercer des métiers non traditionnels. Et en fait, je crois personnellement que le message a été très bien reçu par ces femmes que Marc Lépine visait comme cible ultime. Et ça, c'était les femmes autonomes, le mouvement d'émancipation des femmes et les féministes qui, à mon avis, évidemment, on peut en débattre, ont intégré cette peur. Et je vais y revenir dans quelques minutes, mais pour moi, cette peur s'est appelée, comme on l'a déjà un peu souligné hier, « Sommes-nous allés trop loin ?» Ça s'est appelé aussi « Est-ce qu'on a oublié les garçons ?» Hein ? C'est-à-dire, je suis sûre que vous avez entendu ça, comme moi, depuis 20 ans, des dizaines et des dizaines de fois. Elle a donc porté différents noms, cette peur, mais à mon avis, elle est toute issue de la même réaction à cet acte de pur terrorisme qui est la terreur. Et il n'y a aucune honte à avoir peur. Si le terrorisme ne provoquait pas la peur, il y a bien longtemps que le terrorisme aurait été éradiqué. Donc, si le terrorisme existe partout sur la planète, c'est parce que ça fait peur et que ça marche. Mais je crois qu'il est plus que temps pour nous maintenant, 20 ans plus tard, de prendre conscience de cette peur collective pour finalement réussir à la surmonter. Je crois aussi que le terrorisme ne peut pas être compris seulement en termes de violence. Et c'est là, finalement, où ça m'intéresse, non seulement la violence dans les conflits sociaux, m'a toujours intéressée, mais il doit aussi être compris en termes de propagande. Et c'est ce que Schmitt et De Graaf nous amènent, c'est que la violence et la propagande ont beaucoup de choses en commun. La violence cherche à changer le comportement des gens par la coercition. La propagande vise le même but par la persuasion. Et finalement, le terrorisme est une combinaison des deux. Alors, le terroriste n'assassine pas seulement pour tuer quelqu'un, mais pour obtenir un certain effet sur d'autres personnes que ses victimes. Et les victimes immédiates sont purement instrumentales. Déjà, hier aussi, on disait on ne veut pas qu'elles soient mortes pour rien, les 14 filles de Poly, parce qu'on veut pas, parce qu'on sent ce caractère instrumental de cette tragédie. Mais Schmitt et De Graaf ont un très beau mot que j'ai traduit en français de mon mieux. Les victimes sont la peau d'un tambour qui résonne pour obtenir un effet calculé sur une plus large audience. C'est ça, le terrorisme. Et en fait, c'est le message qui compte pour le terroriste, pas la victime. Et encore plus intéressant, et voilà où je veux en venir, et je pense qu'au cours de ce colloque, ça peut être un élément extrêmement important, je vais le dire en anglais et je vous le traduirai ensuite. C'est « True is violent act. The terrorist seeks to activate a relationship between victims and enemy, whereby the latter is made responsible for the former before a public. » Ce qui veut dire que le terroriste cherche à rendre son ennemi, c'est-à-dire les femmes dans le cas de Lépine, responsable de son geste. Et c'est vrai dans tous les actes de terreur à travers la planète, y compris quand des Palestiniens décident de faire sauter un autobus scolaire en Israël. Et on cherche à rendre responsables les Israéliens du geste palestinien. Donc dans cette violence terroriste, partout à travers le monde, il y a cette volonté de dire « c'est leur faute ». Autrement dit, c'est leur faute à elle, à nous, de ce qu'il a fait. Moi, je garde personnellement, d'ailleurs, un souvenir consterné de la nuit qui a suivi le 6 décembre, parce que j'ai passé de longues heures à écouter la tribune téléphonique improvisée par la station CKAC pour permettre à la population de s'exprimer sur le crime terrible qui venait d'être commis. Et j'étais absolument renversée d'entendre les commentaires qui allaient tellement souvent dans le sens d'accuser les femmes et les féministes d'être responsables du geste de Marc Lépine, la nuit même qui a suivi le 6 décembre. Malheureusement, il ne reste aucune archive de cette nuit, sauf le souvenir qu'on en a. Bref, il a fallu vraiment très peu de temps chez nous pour donner raison à Schmitt et De Graaf sur le renversement de la responsabilité dans le cas de cet acte. Alors, encore une fois, ce qui est important pour moi aussi, c'est de comprendre que le terroriste ne se cache pas pour accomplir son crime. Au contraire, il recherche la médiatisation maximum et il l'obtient. Ce qui, évidemment, multiplie son message et sa menace, ainsi qu'il le souhaite. J'ajouterais d'ailleurs que chaque commémoration depuis 20 ans qui nous remontre ces images de la crise de Polytechnique dans les heures qui ont suivi ne nous fait rien d'autre que revivre ça et recréer encore une fois cette vague qui a suivi le 6 décembre. Chaque fois qu'au lieu de discuter des enjeux sociaux de ce drame et encore une fois cette commémoration des 20 ans dans les médias, ce sont des témoins qu'on entend, quand ce n'est pas la mère de Marc Lépine, etc., qui nous font encore revivre le massacre de 1989, au lieu de nous amener à réfléchir sur son impact et ses dimensions politiques. En fait, j'allais dire encore une fois, l'amplification et la diffusion du geste sont la raison d'être de l'acte terroriste. Son objectif, c'est de faire peur au plus grand nombre par le truchement des médias. Dennis McQuail a écrit que les médias, en créant cette audience massive et passive, rendent les actes de terrorisme, même répugnants, logiques. Et il s'agit donc ici, à mon avis, on va peut-être en redébattre encore, d'une violence qui est très différente, à mon avis, de la violence domestique, notamment parce que dans le cas de la violence conjugale, les victimes ont une relation étroite avec le criminel qui les attaque. Et la violence domestique recherche le secret de l'intimité, elle mise sur la honte de la victime, alors que la violence terroriste, celle de Marc Lépine, mais des autres terroristes aussi, cherche au contraire à s'étaler dans la sphère publique. Ça n'enlève rien au drame de la violence conjugale, je vais être bien clair là-dessus. Mais je pense qu'on a intérêt, collectivement, à identifier ce qui s'est passé là comme quelque chose de très, très, très spécifique et unique dans l'histoire, comme le soulignaient hier nos intervenantes. Les médias du Québec et du Canada n'ont pas une grande habitude des actes terroristes. Il y a des sociétés où les médias sont très souvent sollicités par ces actes brutaux et où la réflexion est bien plus avancée que la nôtre à ce sujet-là. Donc, ce qui a été une crise pour la société, crise majeure en 1989, a aussi été une crise extrêmement importante pour les médias. Et les journalistes, même si on le souhaite, ne sont pas en mesure de s'exclure de la crise. Jamais. Pas plus de la crise d'octobre que de la crise provoquée par le 6 décembre 1989. En fait, ils sont le reflet de ce que nous sommes. Et je ne veux pas les déresponsabiliser en faisant ça, mais simplement en fait, dire qu'ils sont, ils sont comme nous, et finalement, dans cette crise. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il a fallu beaucoup de temps à reconnaître le problème posé par cette crise, parce que généralement, les médias encadrent malgré tout un certain nombre de débats sociaux. Et en période de crise, les médias cessent d'encadrer le débat social. Et au fond, ce qui s'est passé dans la nuit qui a suivi à Polytechnique, c'est ça. C'est la population, avec les débordements que ça a représenté, qui a pris cette place-là. Et Marc Raboy lui avait écrit en 1993, « Les médias deviennent un lieu de contestation où le simple fait de nommer la crise pour ce qu'elle est constitue une véritable bataille. » Donc, ce qu'on a fait dans les premiers jours, les premières heures, les premières semaines, je pense que Mélissa l'a tout à fait bien dit, mais je voulais essayer de voir quelles ont été les conséquences de ce traitement dans la société. Moi, je voudrais aussi vous ramener à Marc Raboy, qui en 1993 avait très bien identifié que les questions qui concernaient les femmes les femmes ont vraiment perdu du terrain dans les médias francophones dans les semaines et les mois qui ont suivi Polytechnique, à l'exception d'un dossier qui était celui du contrôle des armes à feu, qui était en fait issu de Polytechnique, sans y être directement lié, et qui a pris une grande part de la place dans l'espace public accordé à cet événement. Donc on a beaucoup moins parlé de dossiers de conditions de travail. L'équité dans l'emploi, qui était pourtant en pleine discussion dans ces années-là, va aussi perdre du terrain. Et à mon avis, je vais y aller rapidement, je crois que ce qui s'est produit également, et ça touche directement le mouvement des femmes, c'est, je crois que le mouvement des femmes s'est adapté à cette situation. De deux manières. La première, c'est en adoptant un discours sectoriel, c'est-à-dire morcelé. Autrement dit, le mouvement des femmes s'est senti avait perdu sa légitimité dans le dossier global de la condition des femmes. Et si vous voulez, à mon avis, c'est trouver des niches, que ce soit par exemple la violence conjugale, qui a été une de ces niches qui restait légitime après Polytechnique, la pauvreté des femmes, on pouvait se battre pour les femmes pauvres, la situation des femmes immigrantes était aussi dans ces dossiers qui devenaient les dossiers sectoriels du mouvement des femmes. Mais je pense que les femmes ont perdu le terrain la légitimité de se battre pour les femmes en général. Et à mon avis, ça a encore des conséquences aujourd'hui qui sont très sérieuses, parce que c'est un peu comme si on avait considéré que le féminisme était allé trop loin en général, mais qu'il pouvait se réfugier dans un certain nombre de secteurs, ce qui a énormément morcelé le mouvement, à mon avis. Alors que c'est comme si, évidemment, à sa face même, le mouvement non seulement n'est pas allé trop loin, mais il y a encore un paquet de problèmes à résoudre. Par exemple, il y a deux indicateurs qu'on utilise beaucoup sur la condition des femmes, c'est la représentation politique des femmes. Alors vous voyez qu'à Québec et à Ottawa, c'est une véritable catastrophe. On est même loin de se comparer à des pays qu'on juge bien souvent moins avancés que le nôtre en termes de représentation politique. Et puis, un autre indicateur, c'est par exemple le fait que les femmes gagnent toujours 2,64 de moins que les hommes dans leur... et ce sont des chiffres de l'Institut québécois de la statistique en 2007. Alors, en 1997, l'écart était de 2,61 $. Et en 2007, il est de 2,64 $. Alors évidemment, quand on dit qu'il y a encore des batailles à mener, c'en est une. Mais je voudrais juste très rapidement ajouter qu'à mon avis, il y a un autre écart qui devrait devenir un cheval de bataille très important. En 2007, les jeunes femmes ayant un diplôme post-secondaire, et vous savez qu'elles sont de plus en plus nombreuses, eh bien, quand les hommes du même niveau de scolarité gagnent 1 $, aujourd'hui, c'était en 2008, les femmes ont glissé à 68 cents pour 1 $, alors qu'il y a 10 ans, à scolarité égale post-secondaire, les jeunes femmes gagnaient 72 cents dans 1 $ masculin. Alors, c'est comme si la scolarité, maintenant que c'est les femmes qui ont le plus de diplômes, cessait d'être un des éléments importants de la détermination salariale. Bon, en conclusion, il me semble qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu des questions importantes, certes, mais limitées de la part du mouvement des femmes à une partie de la population féminine. L'hypothèse que je soumets, c'est à l'effet qu'il y a plusieurs éléments qui ont peut-être provoqué ce repli, parce qu'il y en a eu ailleurs dans le monde, ce backlash. Mais à mon avis, le massacre de Polytechnique, la mauvaise analyse que la société québécoise en a fait, et les médias en premier, a très largement contribué à ce repli du mouvement féministe, et que bien comprendre et bien analyser ce phénomène va peut-être permettre aussi de surmonter collectivement l'impact de cette peur collective et nous permettre de réintégrer toutes les préoccupations de toutes les femmes sous la bannière du féminisme québécois. Je vous remercie.